Le 9 mai 1997, quatrième conférence par le père Marie-Dominique Philippe.
Je commence par vous saluer d'abord. Vous êtes en pleine vitesse. 2 jours avec le père Marie-Dominique Coutière. Je sais que ça marche bien. Alors, je prends le train en vitesse, dans la vitesse. Ça ne veut pas dire que je dormais pendant ce temps-là, mais je fais d'autres choses qui n'étaient plus de la métaphysique. Le père Marie-Dominique Gouthière m'a dit très rapidement ce qu'il avait traité avec vous. J'essaie de continuer et de prendre le train en marche sans faire d'accident. Voir l'importance de la métaphysique, de la philosophie première, c'est comme cela que l'Aristote l'appelle. Et je crois qu'on a raison de reprendre aujourd'hui le terme de philosophie première, puisque pour certains philosophes, la métaphysique est terminée. On n'en parle plus. Le terme philosophie première est le terme le plus exact du reste, puisque métaphysique, ça a été donné par les bibliothécaires comme nom, un nom très pratique. Après la physique d'Aristote, il y avait des livres, un livre qu'on ne pouvait pas classer. Alors on a dit après la physique, métaphysique, alors qu'Aristote l'appelle la philosophie première. C'est plus juste. Alors on pourrait discuter sur première, puisque pour Aristote, et c'est un des points de vue très importants de sa philosophie, il y a 2 ordres qu'il faut tout le temps respecter. L'ordre génétique et l'ordre de sagesse ou de perfection. L'ordre génétique, qu'est-ce qui apparaît en premier lieu? Oui, le psychologue est très attentif à l'ordre génétique. C'est l'ordre du comment, de la manifestation. Puis l'ordre de perfection ou de sagesse, c'est un ordre qui se prend au terme de la découverte. C'est très important de bien voir cet ordre d'invention qui est l'ordre génétique. On va de l'imparfait vers le parfait. Et l'ordre de perfection, on va du parfait pour éclairer l'imparfait. Et je crois que c'est un des caractères particuliers de la philosophie aristotélicienne, de la philosophie réaliste, qui part de l'expérience et qui découvre les causes. Vous voyez, la cause est antérieure à l'effet. Donc, dans l'ordre de perfection, l'effet vient en second lieu. Et la cause en premier, selon l'ordre d'invention, selon l'ordre de perfection, selon l'ordre d'invention, l'imparfait nous fait découvrir le parfait. Selon l'ordre de perfection, le parfait éclaire l'imparfait. je dis philosophie première, je veux dire la philosophie ultime, la plus parfaite, c'est la métaphysique. Pourquoi ? Parce que le terme de la philosophie première, c'est de comprendre la personne humaine. Premier terme. Second terme de la philosophie première, c'est la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas un terme philosophique, du moins n'est pas un terme que les philosophes ont inventé. Avant les philosophes, il y avait les traditions religieuses qui parlaient de Dieu et des dieux. C'est important de voir le point de départ et le terme, puisque la philosophie première est une philosophie que j'acquiers, que mon intelligence humaine est capable d'acquérir cet habitus, cette qualité particulière qui est la philosophie. Et la philosophie, dans son ultime moment, qui touche et qui regarde l'homme en tant que personne. La question, l'homme est-il l'être le plus parfait ? L'homme est-il l'être par excellence ? Ou doit-on poser un être antérieur à l'homme, plus parfait que l'homme, qui est, selon les traditions religieuses, appelé Dieu, appelé le Créateur. Donc, vous voyez, avec le père Marie-Dominique Gouthière, on s'était entendu. Il prenait le point de départ et je prenais le terme. Comme ça, on coupait la poire en deux. Et autant que possible, la partie la plus étendue, c'est le point de départ. Le terme, ça pourrait être très rapide. Et comme on a encore 2 jours, il faudra quand même remplir ces 2 jours. J'étais tout à fait d'accord qu'ils prennent le point de départ. Le point de départ de la philosophie n'est pas celui des sciences. Le point de départ de la philosophie n'est pas celui de la psychologie. Le point de départ de la philosophie, c'est de connaître l'homme dans ses activités. L'homme transformant l'univers. L'homme se connaissant. Connais-toi toi-même. Socrate, et ce dont tu es responsable par tes opérations. Donc l'éthique, la philosophie et l'homme, partie d'une communauté. Les 3 parties de la philosophie pratique. Et c'est l'homme qui intéresse le philosophe avant tout. Et ces 3 parties de la philosophie étant réalisées, on monte vers la philosophie dite théorique. réalité existante, comme un vivant et comme un vivant spirituel. Donc, regardons le terme de la métaphysique, le terme de la philosophie première, je dis qu'il y a deux grands problèmes. Le problème de la personne, le problème de l'être premier de Dieu. Qu'est-ce que le philosophe peut dire de Dieu? Je sais très bien qu'en disant ça, des quantités de personnes et de philosophes diraient: on a montré la non-existence de Dieu, Feuerbach. Et donc il ne faut plus en parler. Le philosophe cherche la vérité. Il est d'une certaine manière au-delà du temps. Mais en même temps, il est plus sensible que le savant au milieu dans lequel il recherche la vérité. Le philosophe doit être un être très sensible à toutes les réalités. Et donc, sa philosophie, elle est marquée par le temps. Vous voyez, là, j'ouvre une parenthèse. Je crois, je dis ça parce que c'est une anecdote pour montrer qu'on est sensible au temps. Je crois que je suis le plus vieux philosophe qui enseigne. Enfin, c'est, pour le philosophe, c'est quelque chose quand même. Depuis 1945 à aujourd'hui. Parce que j'ai quand même fait ce matin deux cours de philosophie. Oui, je ne dormais pas. À un auditoire très différent du vôtre, puisque c'était l'auditoire à Saint-Jodard, à Saint-Jodard, de sœurs contemplatives. Elles étaient 80 d'étudiants. Ils étaient 60 ou 50. Et puis de frères, 120, 130. Cette salle aurait été trop petite. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait ici. Je sais très bien, ce n'est pas la même chose de faire de la philosophie à un auditoire de chrétiens et un auditoire de philosophes. Vous êtes philosophe puisque vous venez d'une session de philosophie. Bien que la philosophie a sa structure pour elle-même et en elle-même, elle dépend de l'homme, c'est sûr. C'est le fruit de sa recherche. Et j'ose dire le meilleur fruit de sa recherche. C'est une sagesse. Elle est sagesse. Progressivement. Mais évidemment, le contexte dans lequel on fait de la philosophie n'est pas le même. À Fribourg, j'enseignais à l'université avec un public assez varié. Surtout au point de vue des divers pays. À Saint-Jodard, je vous invite du reste, tout le monde passe ici, cours de philosophie. Faut pas une carte. Comme toi, je suis catholique, je dois assister. Non, 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 non. Tout le monde peut assister à ces cours. C'est ouvert au public. On doit avertir autant que possible, poliment. Et les cours se font en français. Ils sont traduits en chinois. De temps en temps, pas tout le temps, mais de chinois, en espagnol, en anglais. Puis on passe. C'est important. Aujourd'hui, des chrétiens de la philosophie, puisque avec la philosophie ils peuvent parler à tous les hommes, ils parlent un langage humain et la langue des hommes. Si je suis chrétien, j'ai un privilège de parler la langue de Dieu. Croyant. Mais la langue de Dieu, extérieurement, elle est comme la langue de tous les hommes. Dieu a voulu l'incarnation. Il a voulu prendre le langage de tout le monde. Mais dans la signification de la parole de Dieu, il y a une signification que seul le croyant atteint. Et donc, le philosophe doit être attentif à rester philosophe. S'il a un public purement chrétien, de temps en temps, il fait des allusions à ce qu'est la foi. Et il avertit. Signal d'alarme. Je passe dans un autre domaine. Parce que, de fait, le philosophe parle un langage humain qui doit être compréhensible à tous les hommes. Et s'il emploie des mots barbares, métaphysique, il explique ce mot signifie ceci en philosophie. Alors, je regarde le pourquoi d'une philosophie, alors que la foi me donne d'une certaine façon une connaissance qui va beaucoup plus loin. Vous savez, cette remarque de Merleau-Ponty, je n'aime pas parler à des catholiques. Et vous savez ce qu'il disait? Parce que Merleau-Ponty, quand il préparait son agrégation, était rue d'Ulm. Et il faisait partie des talents, ceux qui vont à la messe. Il était même le président des talents. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Je n'en sais rien. C'était un secret. Il a rejeté sa foi. Merleau-Ponty était un philosophe très honnête, que j'aime beaucoup. Et Merleau-Ponty disait, je n'aime pas de parler à des catholiques, parce qu'ils savent. Une de ses paroles m'a été gravée dans le cœur. Il disait ça comme une critique, parce que pour lui, la philosophie, constante. Il a raison. Depuis le moment où j'ai enseigné en 1945 pour Fribourg, j'avais enseigné un tout petit peu de philosophie avant la guerre. 40 ans, avant la guerre de 40. Et maintenant, je cherche toujours. Le philosophe cherche toujours. Parce que il sait que plus il avance, plus il a contact avec des hommes différents, plus il peut creuser, voir certaines choses qu'il n'avait pas vues avec assez de netteté. C'est vrai. Et enseigner, c'est être avec des jeunes qui poussent. Et quand on enseigne, on aime d'avoir les réactions de ceux qui vous ont écouté, qui vous posent des questions. N'hésitez pas de poser vos questions, pas pendant le cours, mais après. Et quand Merleau-Ponty dit « Je n'aime pas parler aux catholiques parce qu'ils savent », je comprends sa réaction, mais c'est pas juste. Le philosophe parle à l'homme et non pas aux croyants. Le croyant qui parle aux croyants savent ce qu'ils disent. Le croyant qui parle au philosophe doit à ce moment-là, s'il est poli, s'il est respectueux de l'autre, il parle en philosophe. Oui, c'est une des raisons très importantes de faire de la philosophie. C'est qu'on peut être poli, même pour les incroyants. C'est pas à négliger. On peut réfléchir ensemble sur la dignité de l'homme, sur la valeur de l'homme, la différence entre l'animal, qui n'est pas une personne, et le tout petit enfant, qui est une promesse d'être une personne. Vous voyez, il y a là un problème qui est très important. La grâce ne supprime pas la personne humaine. La grâce ne supprime pas la nature humaine. Elle la présuppose. Mais les chrétiens sont souvent paresseux et se disent « J'ai la foi, je sais. » Non. Vous savez, sans savoir, c'est le propre de la foi. On sait que Dieu sait tout et qu'on reçoit de lui des lumières. Par la foi, par sa parole. Mais Dieu n'aime pas les paresseux. Et donc la foi ne supprime en rien la recherche philosophique. J'allais dire au contraire. Si je suis un croyant, je dois aimer la recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité, au niveau proprement humain, au niveau des connaissances scientifiques, mathématiques, philosophiques, demeure. Pour que je puisse parler à tous les hommes. Un mathématicien, quand il parle à un non-mathématicien, s'il est poli, lui parle non pas en mathématicien, mais en homme. Parce que s'il commence à donner l'ultime théorème qu'il est en train de travailler, personne ne comprendra rien. Je me souviens de ce père dominicain qui était matheux et qui écrivait sa thèse mathématique au couvent. Il avait son petit tableau dans sa cellule. Je l'aimais beaucoup. J'allais souvent bavarder avec lui. Et il m'apprenait toujours quelque chose. Un jour, je lui ai dit, il avait quand même 10 ans de plus que moi, je lui ai dit, votre thèse mathématique, combien de personnes pourront la lire et la comprendre ? Oh, il était très humble, donc très vrai. Je sais pas, je crois 4 personnes. Je crois que les autres y comprendront pas, parce que je pousse énormément. Il avait fait des études philosophiques, des études de philosophie première, de métaphysique. Et là, il avait poussé énormément un sujet qui m'intéressait du reste. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique ? J'ai lu cet article, j'ai lu de nombreuses fois, puis je pouvais l'interroger. Il y avait des choses que je ne comprenais pas à cause du langage. C'est vrai, il y a le domaine mathématique. Et personne ne le nie. Parce que c'est très utile, le domaine mathématique, surtout aujourd'hui. Une civilisation comme la nôtre est dominée par les mathématiques. Par la science, par l'efficacité qui provient de la science. Tandis que le domaine philosophique, il regarde l'homme. Et dans l'homme, qu'est-ce que c'est que sa personne ? C'est un des sujets, je crois, très importants aujourd'hui. Et en contact avec le psychologue, en contact pas avec le mathématicien. Non, le mathématicien ne cherche pas à savoir qu'est-ce que c'est que la personne humaine. Il se contente de savoir ce que c'est que le matheux. Pas autre chose. C'est suffisant pour lui. Mais c'est pas ça qu'il cherche. Tandis que le philosophe aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce que depuis un certain temps, on recherche qu'est-ce que c'est que la personne. Aristote ne cherchait pas ce que c'était que la personne. Du moins, l'expression. Il cherchait la réalité, oui, on peut dire. L'homme qui a acquis une personnalité, une autonomie, une certaine indépendance, la personne humaine. C'est très moderne de chercher ce que c'est que la personne. Et je crois que c'est vraiment le fruit d'une recherche de philosophie première. La philosophie première se termine comme grande question. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine ? Et le philosophe sait que sa métaphysique est nécessaire pour préciser ce qu'est la personne humaine. Et que d'une certaine manière, toute sa recherche de philosophie philosophie première, c'est qu'est-ce que c'est que la personne de l'homme. Et il sait aussi que c'est à partir de la personne humaine qu'il va chercher, existe-t-il une personne plus parfaite que la personne humaine. Par la personne, il va rejoindre l'être premier, qui lui aussi est une personne. Et on entre là en théologie, dans la sagesse philosophique. Des anges. Le théologien le sait. En bonne théologie, il y a un traité sur les anges. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Parce que la théologie aime mieux s'occuper de l'industrie que des anges. C'est vrai. Elle aime mieux s'occuper de ce que représente l'outil que les anges. S'occuper des deux. Parce qu'il n'y a pas d'industrie pour les anges. C'est le propre de l'homme de réaliser une conquête sur l'espace et le temps. C'est vrai, quand vous êtes dans le TGV, une conquête admirable sur le temps. Quand vous êtes en avion, une conquête admirable sur l'espace. Ce n'est plus un bic, mais c'est de l'ordre de l'outil. Je m'en sers. J'en fais mon métier. Donc voyez bien, comme ça je suis sûr de ne pas répéter ce qui a été dit avant. Je présuppose tout cela pour vous montrer le terme, de la philosophie, la personne humaine, le terme de la philosophie, par où la philosophie devient sagesse, la découverte de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, Allah. Le mot personne est typiquement philosophique. Le mot Dieu n'est pas un terme philosophique. Le philosophe l'emprunte aux traditions religieuses. C'est important. C'est important de voir la naissance d'un mot. Oui, la naissance d'un mot. Ordre génétique. À quel moment on On a inventé le mot personne. Vous savez bien que le mot personne, chez Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, le mot personne, c'est d'abord le masque de l'acteur. C'est curieux, hein ? On a passé du mot masque de l'acteur au mot personne qui exprime ce qui en moi fait l'unité de mon être. C'est quelquefois très intéressant de regarder l'évolution des mots. Surtout des mots aussi importants que le mot personne. C'est en grec, on voit ce passage. Prosopone, c'est le masque. Et puis, 100 ans après, le même mot exprime ce qu'il y a de plus vénérable, de plus grand dans l'espèce humaine. Si vous voulez, je ne tarderai pas trop ce soir, parce que vous devez déjà avoir un peu la tête remplie, et donc je ne veux pas trop pousser, parce que la première chose qu'on doit faire toujours en philosophie, c'est le respect à l'égard de ceux qui ont philosophé avant nous. Le philosophe doit respecter l'homme dans son devenir et dans son être. Il doit respecter que ce que je vous disais il y a un instant, le mot personne et la recherche de la personne est quelque chose d'assez neuf comparativement à la recherche de la nature. Le mot personne a pris de notre temps alors une extension énorme grâce à la théologie. C'est la théologie du Moyen-Âge qui a montré l'importance du mot personne. D'une certaine manière, vous voyez, on pourrait dire que le mot personne provient de la théologie. Mais ce n'est pas vrai. Les philosophes l'ont employé avant les théologiens. Mais les théologiens ont développé énormément la signification du mot personne à cause du mystère de la très sainte Trinité. Et le mystère du Christ, mystère de la très sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Est-ce que c'est pas contradictoire? Un Dieu simple, un seul Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu, il est infini. Il y a trois personnes en lui. De l'être. Dieu est un, unique dans son être. Le monothéisme, dans toutes les grandes traditions religieuses. Et on doit ajouter, par la révélation de Jésus, le Christ, l'unité de Dieu, il y a trois personnes. Et que ce n'est pas contradictoire. Le mot personne est relié à l'esprit, à la vie. mystère du Christ, c'est une personne de la très sainte Trinité, le Verbe, qui est devenu chair. Une personne, le Fils, qui assume la nature humaine. Il y a donc dans le Christ une seule personne, un être et deux natures. Alors cela a obligé les théologiens de creuser la signification de l'être, la signification de la vie, la signification de la personne, la signification de la nature, pour bien montrer, autant qu'on le peut, avoir un certain sens de ce mystère trinitaire et de ce mystère d'incarnation. Mais c'est sûr, si on est honnête, c'est sûr que le Moyen-Âge a joué un rôle important dans cette recherche de la personne, et tout spécialement Thomas d'Aquin. Je crois que Thomas d'Aquin est le théologien de la personne, avant tout. On ne le dit pas beaucoup, parce qu'on n'aime pas beaucoup de déterrer Thomas d'Aquin pour montrer que, de fait, ce qu'il dit peut nous intéresser. C'est intéressant de voir ce que Thomas d'Aquin dit sur la personne. La liberté et la personne. La personne, le lieu de la responsabilité. Quand une personne est bien développée, elle a un sens très grand de la responsabilité. De ses activités, il en est responsable. Ce n'est pas la nature comme telle, c'est la personne. On verra ça. C'est quand même très important. Et ensuite, le mot personne est passé dans les recherches philosophiques. Vous savez, notre philosophie est très dépendante du développement de la théologie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent s'éclairer que quand on voit que, en effet, la culture chrétienne a donné naissance à une nouvelle philosophie. Descartes. Et que, progressivement, cette philosophie qui a voulu se laïciser, qui a voulu même devenir des idéologies athées, s'est opposée très profondément à la théologie. Avec Freud, c'est facile de comprendre. Le fils tue le père. La théologie est en quelque sorte père. La théologie du Moyen-Âge. Père. D'une philosophie qui est née. Et qui est née souvent en révolte contre la théologie. Alors le problème est passé de la théologie à la philosophie. Et en philosophie, le mot personne s'est développé beaucoup en psychologie. Le mot personne s'est développé beaucoup en politique. Et puis, le mot personne doit, en dernier lieu, être l'objet de la philosophie première. Comme le terme de la philosophie
Le 10 mai 97, Père Marie-Dominique Philippe, premier cours.
J'espère que vous avez bien dormi, malgré ce retour au froid. On vit un très drôle de temps, n'est-ce pas ? C'est donc hier que nous allons regarder deux problèmes. Le terme de la philosophie qui prend de plus en plus de place. Le problème de la personne. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le problème de la personne, on voit que la psychologie Les philosophes qui suivent Feuerbach, parce que lui a été très violent, un peu lui qui est au cœur de toutes les idéologies athées, et puis au contraire ceux qui essaient de voir comment notre intelligence est faite pour Dieu. est existante. Et forme en soi, ça montre bien la chose. La forme en soi n'existe que dans la pensée de Platon. Puis elle existe de nouveau dans les idéologies. Mais la réalité est une personne humaine, c'est un individu. C'est une petite araignée. L'araignée en soi. Elle est très douce, l'araignée en soi. Elle pique pas. Elle n'est pas dangereuse, l'araignée en soi. Et ce qui est beau dans l'araignée, c'est qu'elle pique. Ce qui est beau. Elle est remarquable. C'est astuce. Sucer le sang. Elle est extraordinaire, ce venu-là. Elle a bon goût. Ces araignées, elles sont mortelles, si elles vous piquent. Je dis, mais c'est très... Oh non, elles ne pénétreront pas dans votre chambre. Elles sont ici, hein. C'est agréable d'être accueilli par des araignées. C'est pas l'araignée en soi. L'araignée en soi, c'est très très beau. Les petites araignées individuelles qui vous piquent, vous les crassez plus facilement que l'araignée en soi. Jusqu'au bout, par l'analyse, les principes et les causes. Mais l'intelligence ne perd jamais le contact avec le réel. Elle doit tout en venir au réel, parce que les principes et les causes existent dans une réalité concrète. Et c'est cette réalité concrète qui m'intéresse en définitive. C'est celle-là que je vois face à face. L'araignée existante qui m'intéresse. Est-elle mortelle, est-elle pas mortelle? C'est ça qui est intéressant. Si elle est pas mortelle, c'est pas trop agréable. Mais c'est rien, mais si elle est mortelle, c'est pas très drôle. Ce qui m'intéresse, c'est les êtres existants, ceux dont j'ai l'expérience, auxquels je reviens, que je ne peux que décrire. L'individu, je ne peux que le décrire. Et la personne, je ne peux que la décrire. Elle est tellement complexe. Et en même temps, tellement simple. Ça, c'est le comment des réalités. Et ce qui est propre de la philosophie, c'est de toujours aller du comment des réalités que j'expérimente au diesti, ce qui est l'analyse. L'analyse en voyant comment je peux découvrir dans la complexité des êtres les points, les noyaux essentiels, les principes, les causes. Et donc, ce qui serait très intéressant, il faudrait toute l'année faire l'histoire de la philosophie jusqu'à nos jours par le problème de la personne. Parce qu'on verrait bien que c'est ça qui a hanté le philosophe. Et nous sommes aujourd'hui en face de ce problème de la personne qui se présente à nous directement. C'est dans ce sens-là que je crois qu'on peut dire qu'on touche le terme de la recherche philosophique. Au-delà de la personne, il n'y a plus que Dieu. Et c'est vrai. C'est très intéressant de regarder notre monde physique, mais c'est pas ça qui me donne. jamais un acquis absolu. On lutte pour la sécurité, pour supprimer l'aliénation. La sécurité, on lutte par rapport à tout ce qui est pour nous angoisse. L'angoisse supprime la sécurité. Donc vous voyez, j'ajouterai à Audier l'aspect négatif des trois qui luttent. Alors ça fait six sentiments du moi. Et c'est très curieux, c'est psychologiquement quelque chose de très étonnant et très intéressant. En face de la sécurité, l'angoisse. Les personnes angoissées luttent toujours contre l'angoisse. Parce qu'ils ont manqué de sécurité dans leur jeunesse. Alors vous regardez ici, si on voulait développer tout ce qui permet à un enfant de vivre dans la sécurité. Aussi comme la valorisation, acquérir la valorisation, lutte contre ce sentiment que tout ce qu'on fait n'est pas bon. Ça existe beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose de même plus profond que l'angoisse. Et puis l'autonomie. On lutte contre tout ce qui est aliénation. Je ne développe pas ça parce que c'est d'ordre psychologique, mais c'est intéressant. Le philosophe doit s'intéresser à tout ce que les hommes cherchent partout, ça l'intéresse. Et puis il doit essayer d'aller plus loin, parce que Charles Audier constate, en bon psychologue, il voit qu'on lutte tout le temps pour acquérir ces trois sentiments du moi. Et il a raison, c'est vrai que la lutte profonde, c'est essayer d'acquérir une certaine sécurité psychologique. On ne peut pas être une personne s'il n'y a pas la sécurité. On ne peut pas être une personne s'il n'y a pas l'autonomie. Certaine autonomie. On ne peut pas être une personne s'il n'y a pas une valorisation de nos actes. Évidemment, je peux faire de ces trois sentiments quelque chose de terrible. Je suis le seul qui a l'autonomie. Toutes les autres, je les rejette. Je suis le seul qui a la sécurité. Réfléchissez beaucoup sur ce petit flash psychologique de Charles Audier, qui me semble très intéressant. Le philosophe, lui, revient profondément à voir qu'est-ce qu'il y a de caractéristique dans le « je suis ». Pris, ce n'est plus le sentiment du « moi ». l'âme du pays et en tuant l'âme de la personne. Le marxisme regarde les individus et non plus la personne. Et donc, on regarde uniquement le point de vue matériel et on essaie d'harmoniser. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de personne. Alors, on changera les causes. Il n'y a plus que le conditionnement humain qui est intéressant, le conditionnement politique. Et on a supprimé la vraie recherche de la finalité, ce pourquoi l'homme est fait, qui permet d'avoir une espèce d'unité, profonde unité. Je crois que si on réfléchit sur toute l'analyse qu'on a faite en philosophie, on voit que ce qu'il y a de premier dans la personne humaine, ce qui se touche en premier lieu, c'est cet aspect substantiel de l'âme. L'âme est notre substance. Et notre substance individualisée par notre corps. Il y a une unité profonde en nous, dans notre substance individuelle, qui est cette autonomie dans l'ordre de l'être. Nous avons quelque chose de très mystérieux en nous, et qui est bien le fondement de la personnalité. Vous voyez, c'est intéressant de voir que tout de suite, c'est l'unité de l'âme et du corps. On a fait de la distinction de l'âme et du corps une séparation, ce qui devient intolérable. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme. Ce serait complètement stupide. Il y a l'unité profonde de notre âme et notre corps. Et c'est cela qui nous donne notre autonomie, notre visage fondamental et premier. Nous sommes distincts des autres. Et voyez, la science biologique, en montrant le chiffre de chaque individu, qui montre tout de suite le chiffre biologique, indique bien cette individuation dans notre corps. Aujourd'hui, c'est palpable. Quand on redécouvre, vous savez bien, on avait des applications très, très curieuses et intéressantes, puisque on mettait quelquefois des os de Sainte Scolastique avec Saint Benoît. Parce que le chiffre biologique de Saint-Benoît et de Saint-Scolastique n'était pas le même jusque dans leur squelette. On est marqué par cette espèce d'unité. Il y a une unité formidable en nous. Plus les animaux sont élevés, parfaits, riches, plus leur unité est forte et plus leur complexité est grande. Complexité qui grandit, et avec la complexité qui grandit l'unité. Comme c'est beau ça. C'est merveilleux pour voir ce que c'est que notre autonomie. Notre autonomie, elle vient de notre unité. Vous voyez, faites des applications au point de vue politique. mieux s'unir aux partis. C'est très cru. Oui, ça, c'est les applications concrètes de ce que représente l'autonomie de chacun d'entre nous. La personne humaine implique d'abord en premier lieu l'autonomie. Je retrouve Charles Audier, l'autonomie. Mais vous voyez, j'essaie de voir d'où vient cette autonomie au point de vue philosophique. Quelle est l'autonomie dominante de l'individu? On sait très bien que la médecine, quand elle devient purement scientifique, perd le sens de l'unité de la personne, de l'individu. On soigne la maladie, mais on tue l'homme. On va tous mourir, guérir notre maladie et tuer dans notre complexité. Parce que justement, l'aspect scientifique l'emporte sur l'art médical. L'art médical regarde l'individu qu'il faut guérir. Le médecin, ce n'est pas seulement celui qui regarde telle maladie avec tel médicament. C'est celui pire quand